Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir présenté dans le temps imparti, effectivement, ce tableau extrêmement complet et stimulant de cette thématique de l'ultramodernité et dont effectivement les effets, les aspects nous sont visibles tous les jours dans nos propres sociétés. Bien, pour équilibrer, garder un équilibre entre les deux parties de la matinée, je vais appeler la prochaine communication suivante, Marcello Camurcia. Si vous voulez bien venir, on anticipe un petit peu.
Je préfère parler en départ parce que j'ai un PowerPoint pour ici. Mettre dans l'ordinateur.
Alors, est-ce que Roberto Blancart pourrait venir?
Moi aussi, j'ai un PowerPoint.
La culture du PowerPoint.
Alors, bon, écoutez. Non, c'est pas difficile. Bon, alors dans ce cas, on va faire une petite pause maintenant, d'une dizaine de minutes. Pardon. C'est vrai que si on fait une interruption maintenant, il faut placer le débat maintenant sur les deux premières communications, effectivement. Il faut quand même maintenir le débat, ça c'est un point absolument important. Donc voilà, j'ouvre donc le débat sur les deux communications de Jean Bovero et de Jean-Paul Willem. Est-ce que... Oui, on a un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Oui, on a 10 minutes, un quart d'heure de débat. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole sur l'une ou l'autre de ces communications? Pardon, oui.
Il y a peut-être un micro qui se balade ou pas? Comment ça se passe?
Sinon, vous prenez une comme il y en a deux là. Ouais.
Oui, merci beaucoup pour contributions passionnantes. Moi, j'ai une question concernant une contradiction que j'ai repérée. Donc, il y a quand même Philippe Portier qui a dit que les théories de la sécularisation étaient complètement dépassées et que personne n'y croyait. Et Jean-Paul Willem a dit que avec le régime de l'ultramodernité, il y avait quand même une radicalisation de la sécularisation. Et je voudrais poser la question si on ne pourrait pas décider la question si on regardait simplement les données. Donc, on a quand même les World Value Survey, European Value Survey, ISSP. Et selon moi, toutes ces données montrent simplement qu'il y a une sécularisation extrêmement forte en France comme dans tous les autres pays, au moins européens, ce qui voudrait dire que c'est quand même une radicalisation de la sécularisation. Je voulais juste...
Je souscris tout à fait à ton point de vue. À l'arrière-plan, il y a aussi des données quantitatives et qualitatives, mais c'est une révision, je dirais, du paradigme de la sécularisation par rapport à un paradigme de la sécularisation de problématique de la perte, à savoir plus de modernité égale moins de religion. Non. C'est pas plus de modernité égale moins de religion, c'est avec radicalisation de la modernité, c'est une autre façon d'être religieux. Par exemple, les religions de l'ego, comme tu l'as montré dans un livre avec une équipe d'autres collègues suisses, les religiosités de l'ego, donc des reconfigurations de la façon d'être religieux dans un univers séculier. Et donc moi, j'articule à la fois... effectivement, radicalisation, que l'on observe aussi quand on voit l'évolution des indices de fécondité dans les pays arabo-musulmans, par exemple, ou l'élévation du niveau d'éducation, en particulier des jeunes filles, dans un certain nombre de pays. Ce sont des indicateurs d'évolution très, très sensibles qui vont dans le sens d'une sécularisation, d'un réaménagement de la place et du rôle du religieux, mais en même temps, reconfiguration de la place et de la façon de se positionner pour les expressions religieuses. Et donc, il y a à la fois un travail du religieux, alors plus ou moins bien accepté, avec des crispations fondamentalistes également, que ça provoque dans les différentes traditions religieuses.
Oui, moi, je suis d'accord. J'ajouterais qu'effectivement, quand Peter Berger parle de désécularisation, c'est une mise en question de sa théorie de la sécularisation, plus que justement l'aspect descriptif de la sécularisation elle-même. Et Philippe avait bien fait la différence. Bon, ce qui n'a plus cours, c'est finalement le postulat qui avait quand même derrière ce qui est devenu le paradigme de la sécularisation. Mais certains sociologues dès cette époque-là étaient assez réservés par rapport à ce postulat, qui était une sorte d'universalisation de la rationalité instrumentale. Et quand on lit Peter Berger, par exemple, il dit l'évolution des pays du tiers-monde qu'ils adoptent un régime communiste ou qu'ils adoptent un régime capitaliste rejoindra, disons, les régimes occidentaux dans une sécularisation où, finalement, la rationalité instrumentale est l'infrastructure culturelle du social. Bon, c'est ça qui, effectivement, est tout à fait remis en cause. Bon, et donc, disons que la sécularisation, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Paul, était encore un peu... le paradigme de la sécularisation était encore un peu lié à une sécularisation transfert. Et je dirais que c'est cette sécularisation transfert qui est en crise depuis les années 90, en gros. Bon. Et c'est sans doute ça qui amène de nouvelles réflexions. Alors, moi, je conclurai en disant aussi que peut-être il faut renoncer à tout paradigme et faire jouer... Parce que les paradigmes... Comme Philippe d'ailleurs l'a très bien dit, ils sont aussi très dépendants des débats sociétaux d'une époque. Alors très bien qu'il y ait un lien entre la sociologie et les débats sociétaux, ok. Mais alors justement, il faut avoir conscience de l'aspect temporaire de notre conceptualisation et de la nécessité qu'elle soit en mouvement, qu'elle évolue, etc. Et l'inconvénient du paradigme de la sécularisation, c'est que finalement, il a continué à fonctionner au-delà du temps où il était novateur et où il apportait vraiment un renouvellement par rapport à une sociologie de la religion qui restait un peu pastorale ou liée aux institutions ecclésiastiques.
Où est le micro ?
Merci, Christian Bic, je suis... juriste, je m'occupe surtout des questions d'éthique des sciences, notamment au comité intergouvernemental de bioéthique de l'UNESCO. Je voudrais donner un exemple concret dans le domaine que je connais, qui est en relation avec la science et la technologie que vous avez mis en avant comme une extension de la sécularisation. Moi, j'ai l'impression que sur ce phénomène qui est lié à des questions de société très médiatisées, on a les deux éléments. On a d'abord la bioéthique comme une transformation de l'éthique et de la morale appliquée à des pratiques et une certaine forme de laïcisation d'une nouvelle forme de morale, dans la continuité d'ailleurs des droits de l'homme pour partie, mais d'un autre côté, vers certains groupes religieux, et c'est assez patent depuis une toute petite dizaine d'années en France, vers l'Église catholique en tant qu'institution, c'est le lieu de renouer avec la société pour montrer qu'on est au cœur des préoccupations du monde moderne et tenir un discours qui, sur le dogme, est quand même est un retour à une certaine forme de fermeté, mais qui est une présence très forte dans l'analyse des questions. En France, c'est quand même l'école la plus solide d'enseignement dans le domaine de la bioéthique, plus que l'éthique des sciences. D'ailleurs, bioéthique, ça reste quand même l'Église catholique, l'enseignement catholique avec une diversité de pratiques. Donc, je me demande si on n'est pas finalement, au moins sur certains points, sur un point d'extension, je vais dire à mi-chemin et dans la possibilité véritablement de savoir si on a un retour du religieux par les institutions qui prennent le lien avec la modernité pour se faire reconnaître dans la société comme étant au cœur des problèmes de société, et une certaine forme aussi de sécularisation, de laïcisation étendue, parce que effectivement il y a un mouvement scientifique qui a besoin de continuer et d'être porté et d'être porteur d'un certain nombre de problèmes nouveaux, comme ceux les problèmes écologiques qui sont aujourd'hui aussi au cœur de l'actualité. Voilà, c'était mon sentiment sur un point particulier.
Merci. Ah,
c'est pas à mon sens un retour du religieux. C'est un, alors ça questionne, et José Casanova l'avait bien expliqué, la thèse de la sécularisation comme privatisation du religieux. Parce que c'est en tout cas un retour des interlocuteurs religieux dans le débat public et dans le débat sociétal. Et on le voit à la fois sur les questions de bioéthique et sur les questions environnementales. Ça ne signifie aucunement, dans mon analyse, la fin de la sécularisation, mais c'est un retour dans le débat sociétal, dès lors où le débat sociétal, in fine, pose la question: qu'est-ce que c'est que l'humanité de l'homme ? Et donc, des questions fondamentales, des questions anthropologiques arrivent à l'agenda de la décision politique, selon les choix effectués. Et donc, dans une telle configuration, il y a un retour. Et vous savez que certains théoriciens, comme par exemple Jürgen Habermas, plaident pour la prise en considération de l'apport qu'il appelle des sagesses de diverses traditions religieuses dans le débat sociétal sur ces questions. Et le questionnement de l'anthropocentrisme, et Philippe Descola en anthropologie l'a très très bien posé à travers sa notion de naturalisme, le fait que c'est seulement dans la civilisation occidentale que l'homme a été à ce point considéré comme extérieur au monde des vivants et confronté au monde des vivants, alors que dans toute autre civilisation, il y a prise en compte des animaux, des plantes dans les interactions entre l'homme comme être vivant. Et donc là, c'est pas un clash de civilisation, c'est une interrelation renvoyée par d'autres cultures qui positionnent différemment l'homme par rapport à la nature, par rapport aux autres êtres vivants. Et je pense que ça fait partie de ces dimensions de reconfiguration.
Oui, alors c'est intéressant, c'est que il y a deux problèmes qui sont liés et qui en même temps sont pas identiques. Bon, il y a le problème effectivement de la participation des institutions religieuses et des sensibilités convictionnelles plus largement au débat de société. Et effectivement, l'idée d'une privatisation de la religion était plus liée à ce niveau-là à une certaine conception de la sécularisation qu'à des régimes juridiques et politiques de la laïcité, qui a toujours admis juridiquement la participation des églises et groupes religieux au débat social. Bon. Et il y a le problème du fait que les mondes religieux étant des mondes reliés à une transcendance, le risque existe toujours de penser qu'on surplombe la société. Hein. Et quand justement au niveau du début du GSRL, on a dit dès les années, donc la deuxième moitié des années 90, attention, il peut avoir une montée de radicalisme religieux parce que justement dans une crise de la sécularisation comme transfert d'idéaux séculiers, les religions proposent un imaginaire de la continuité et un imaginaire de la totalité. Là, on voit bien le problème politique qui peut exister entre, effectivement, du coup, une modernité, une ultra-modernité qui sera très réflexive, qui donc doutera, questionnera, etc. Et puis, des groupes et des forces religieuses qui, elles, diront « on a la solution ». Et cette solution, effectivement, elle se situe dans une continuité qu'on recompose, et dans une totalité. Bon. Et c'est tout le débat aussi actuellement retour de la religion au niveau des racines. Le débat actuel, par exemple, très précis sur les crèches dans les mairies. Les crèches dans les mairies, normalement, c'est interdit par l'article 28 de la loi de 1905. Et les gens qui les prônent disent « attention, parce que les crèches, c'est quand même nos racines, etc. etc. » C'est-à-dire que dans une société où, effectivement, la projection dans l'avenir est beaucoup plus difficile et où l'avenir n'est pas plein de promesses, eh bien, évidemment, il y a symboliquement l'idée, du coup, de se retourner vers ses racines et de recomposer aussi ses racines, de réinventer un passé et de regarder plus vers le passé que vers un avenir incertain et même menaçant. Bon. Donc, il y a un problème à la fois, effectivement, du fait qu'il y a participation des religions et des églises aux débats sociétaux et que ça... très bien, c'est l'évolution même de la sécularisation le visibilise. Bon, mais ça repose un problème de laïcité quand cette participation devient la volonté, disons, de surplomber et d'apporter des solutions qui seraient valables pour toute la société, quelles que soient les croyances et les incroyances, entre guillemets, puisque j'ai dit qu'au GSRL, on n'avait pas aimé ce terme d'incroyance, mais quels que, disons, les systèmes de pensée des membres des sociétés civiles.
Merci. Monsieur, vous avez demandé la parole. Oui. Et après, vous allez faire...
Oui, je trouve que le paysage de l'ultramodernité a été un peu trop optimiste, parce que je vois actuellement une tendance énorme à la dualisation de chacune de nos sociétés. Et je vois que, d'un côté, toi, par exemple, Jean-Paul, tu as mis l'accent sur les religions autres dans nos sociétés. Tu as mis l'accent sur les rencontres entre les cultures. Et je te dis que c'est beaucoup plus frappant actuellement, pour moi en tout cas, de voir le repli de chaque culture nouvelle, culture très d'union, religion nouvelle, sur elle-même, dans nos sociétés. Parce que nous sommes dans une société à l'ultramodernité qui se dualise. C'est la crise de l'État, de nos États, de son pouvoir. Et c'est aussi la libération du capital financier qui s'en va par rapport au contrôle de l'État et qui s'en va aussi par rapport au contrôle du réel dans le monde même de l'économie. C'est-à-dire que c'est un super pouvoir. Et je pense que nous sommes, nous tous, sociologues, habitués à penser nos sociétés comme de sociétés fermées. Et ce sont des sociétés tout à fait ouvertes. Et je pense que les religions dans l'actuel, il y a une société duale. Le haut, je serais d'accord avec une définition. On va vers la sécularisation. Mais dans le bas, je pense que c'est tout à fait différent. Et je pense aux nouvelles fonctions de la religion. La religion, c'est une ressource autonome pour les populations autres. C'est la seule ressource autonome, religion, trait d'union, culture, parce qu'ils n'ont pas fait la séparation normalement. Donc, je pense qu'il y a deux logiques à la globalisation, deux logiques pour la culture. Il y a d'un côté la McDonaldisation, c'est-à-dire l'homogénéisation à niveau mondial, mais il y a toujours la récréation culturelle des gens qui ne peuvent pas que exploiter ces ressources purement autonomes, parce que l'État ne peut rien faire, ne peut plus faire grand chose.
Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, parce que les sociétés sont de plus en plus ouvertes et ce processus de radicalisation, la sécularisation et de la modernité provoque de l'insécurité culturelle et de l'insécurité identitaire. Et donc ça engendre des replis communautaires. Ça, je l'ai dit, parce que c'est le bousculement de toutes sortes de frontières. frontières politiques, frontières culturelles, frontières de genre, frontières de, entre générations, etc., produit des bouleversements très profonds. Et la construction identitaire, il faut avoir certains atouts et ressources pour la faire. Et donc, comme un sociologue comme François Dubel l'a bien souligné, il n'y a pas seulement de la précarité économique, mais de la précarité sociale et culturelle. Et certains ont moins d'atouts que d'autres pour élaborer leur trajectoire et leur identité dans une société de plus en plus complexe où ils sont moins portés par des structures collectives et des milieux culturels qui les aidaient, qui étaient des supports collectifs et institutionnels pour construire leur identité. Et donc la construction identitaire creuse la différence, j'allais dire, entre les pauvres et les riches, non seulement au niveau économique, mais en termes de ressources culturelles.
Une dernière question, et nous clôturerons ce débat.
Merci. Éric Vincent, on a perçu dans la description de la sécularisation une tendance à ne plus différencier le plan religieux, on pourrait dire le plan convictionnel. Le religieux est traité d'une certaine façon comme des convictions parmi d'autres. Et je voulais vous demander à tous les deux, donc, est-ce que dans ce contexte, y a-t-il encore une pertinence scientifique et épistémologique à conserver une spécificité du religieux dans le champ convictionnel? Et si oui, quelle spécificité?
Tu y vas d'abord?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a dès les années 90 et dès la fin du GSR d'ailleurs, on a constaté un brouillage de ce qu'on appelait un brouillage du religieux et du séculier, et c'est pour ça que dès la fin du GSR, on parlait du religieux d'ailleurs plus que des religions. Le premier dépassement, c'était le dépassement des religions constituées au religieux, et puis du religieux, du croire, du sens, des valeurs, etc. Et la réunion de ces termes voulait montrer qu'il y avait justement un champ symbolique qui dépassait le religieux constitué. Bon, 20 ans après, il me semble que non seulement ça reste, mais ça s'est beaucoup, notoirement développé, et que justement le phénomène d'individualisation amène des combinaisons symboliques avec des divers emprunts religieux, non religieux. Bon. Alors, ceci dit, je dirais peut-être qu'à ce moment-là, paradoxalement aussi, la sociologie de la laïcité vient au secours de la sociologie de la religion, parce qu'il n'en reste pas moins que l'institutionnalisation religieuse est plus forte que les autres institutionnalisations symboliques. Bon. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que sans doute les religions sont des concentrés de symboliques. Et ensuite, parce que historiquement, évidemment, et diachroniquement, les religions comme force sociale, institutionnelle, etc., existent depuis longtemps et donc ont tout cet acquis diachronique, bon, qui continue. Bon. Si on voit, par exemple, justement, l'Union européenne parle de religion et de conviction, mais la force de frappe, je dirais, des institutions religieuses à Bruxelles et la force de frappe des humanistes séculiers à Bruxelles est sans commune mesure. Bon. Donc, déjà à ce niveau-là, il y a une offre de sens qui est, disons, beaucoup plus formalisée au niveau des religions qu'elle est au niveau du séculier. Bon. Et puis, paradoxalement, la laïcité française, justement, en confondant des fois un peu le tout et la partie, desservi l'humanisme séculier en tant que partie. Bon. En Belgique, et Jean-Paul Martin l'a longuement étudié, il y a une constitution d'un pôle humaniste séculier dans le cadre de la pilarisation, etc. En France, vous allez avoir, par exemple, des aumôniers dans les prisons, dans les hôpitaux, à l'armée, etc. Et vous n'allez pas avoir de conseillers humanistes, alors qu'en Belgique, vous allez avoir des conseillers humanistes. C'est-à-dire que, en France, la structuration de propositions de sens non religieuses ne s'est, a été moins élaborée que dans d'autres pays parce que justement des militants laïcs ont confondu la laïcité avec l'humanisme séculier. Et donc, paradoxalement, ils se sont retrouvés quand il a été clair que la laïcité n'était pas ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent aussi maintenant, que certains veulent aussi ramener la laïcité à cela, parce qu'ils se trouvent démunis. Mais il n'en reste pas moins que si on s'en tient aux religions constituées, alors on n'aura pas la demande, on aura l'offre, mais on n'aura pas la demande, parce que la demande, elle combine étroitement, bon, alors, tout ce qui a été dit d'ailleurs sur les systèmes de bricolage, bon, alors avec les débats évidemment autour de cette notion, etc. Mais ce qui est clair, c'est que la demande n'est pas que religieuse. À la fois, il ne faudrait pas faire du néo-pseudo-marxisme en faisant du religieux uniquement une infrastructure, une superstructure, un peu évaporeuse, mais en même temps. Il y a eu un article, par exemple, très éclairant dans Le Monde de Olivier Roy en disant « c'est pas une radicalisation de l'islam à laquelle on assiste, c'est une islamisation du radicalisme ». Et il me semble que indiquer justement qu'il s'agit d'une islamisation du radicalisme montre bien à la fois le fait que le religieux n'est pas tout et se mêle de manière inextricable à d'autres éléments que le religieux. Et en même temps, le religieux permet de formaliser. Et on ne peut pas dire, par exemple, ça n'a rien à voir avec la religion, si la formulation, elle est quand même une formulation politico-religieuse. Bon. Et on ne peut pas évacuer ce phénomène. Bon. Donc voilà, on est dans cet entre-deux.
Réponse tout d'abord empirique. Bon, au niveau institutionnel, donc, dans l'article 17 du traitement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on a ajouté, à côté des églises, les organisations philosophiques non confessionnelles, à la demande des Belges. La Belgique qui nous offre l'exemple de ce que Claude Javot de l'Université libre de Bruxelles appelle la laïcité organisée. Et donc, comme vient de dire Jean, on peut avoir à l'hôpital la visite d'un conseiller spirituel laïque, humaniste, ou un aumônier catholique, protestant, juif, etc. Donc, une distinction, prise en compte des options philosophiques non religieuses. Et à l'échelle européenne, ça se traduit en particulier par la Fédération humaniste européenne. Mais je signale que cette tendance à organiser les convictions philosophiques autres que religieuses dans des organisations et les visibiliser, ça contribue à un aspect de ma thèse, à savoir une sorte de banalisation de la laïcité, le secular state, qui pratique une neutralité à la fois par rapport aux affirmations religieuses qu'aux affirmations philosophiques non religieuses. Et à l'échelle individuelle, constat empirique, on distingue les données des enquêtes européennes sur les valeurs entre les sans-religion croyants et les sans-religion incroyants. Donc on n'identifie plus, parce qu'empiriquement ça ne se vérifie pas, le fait de se déclarer sans-religion avec des phénomènes d'incroyance. Il y a des croyants sans-religion. Et donc il faut distinguer l'affiliation ou la reconnaissance de l'identification à une institution religieuse et les différentes représentations pratiques qui sont celles que l'on observe à l'échelle individuelle. Reste, à mon avis, pour un regard sociologique, il y a une manifestation sociale différente des religions et des convictions non religieuses, parce que, d'une part, moi je raisonne en termes « quelle est la base sociale ?» organisationnelle de philosophie non religieuse. Quand il y a, si je prends la libre pensée ou l'union rationaliste athée, ok, il y a une organisation, il y a une base sociale, il y a quelques militants. Donc là, on a un parallèle avec les organisations religieuses. Sinon, on est dans le ventre mou et complexe des personnes indifférentes qui n'ont ni conviction religieuse déclarée, ni conviction philosophique déclarée. Et donc, on distingue entre les sans-religion et les athées convaincus dans les enquêtes quantitatives. Et ça me paraît extrêmement important. Athée convaincu, c'est une conviction. C'est un engagement philosophique qui peut avoir une base sociale et une traduction organisationnelle. L'indifférence en matière de conviction, c'est tout autre chose, c'est souple, c'est malléable, évolutif, et on ne peut pas tirer parti de l'importance des indifférents, ni dans un camp, ni dans un autre.